Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans The Movies spécial PIF jour 3. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler non pas de 5 films comme j'avais annoncé hier, mais de 4. Voilà, bon, j'avoue, j'ai sauté le dernier parce que bon, je suis quand même resté 9 heures au Max Linder, c'est assez conséquent. Et en fait, je pensais que la dernière séance était à 21h15, au final, elle était à 21h45. Donc, ce qui est radicalement différent, ce qui aurait voilà, fini beaucoup plus tard. J'ai loupé la dernière séance. Puis, c'est vrai que le film d'hier m'a pas donné envie de rester pour la séance parallèle. Mais c'est pas grave, on a quand même vu 4 films, dont plusieurs en compétition, et donc on commence tout de suite d'ailleurs par un film en compétition, à savoir The Sacrifice Game de Jennifer Wexler. Because of some fairy tale you found in some book. We're just getting started. Give me the knife. Get out of here, you murderers! I am the vessel! Au début des années 70, pendant la période de Noël, des émules de Charles Manson s'invitent dans un pensionnat de jeunes filles avec la ferme intention de sacrifier des élèves innocentes à leurs démons de prédilection. Tout ne va pas se dérouler aussi facilement. Alors c'est un film qui est passé à l'origine hier, que j'ai vu en rattrapage aujourd'hui, voilà, qui est-ce que c'est le premier film américain du pif que je vois? Oui, parce que du coup on avait commencé par Godzilla japonais, Vermine français, et ensuite on avait fait Property brésilien. Et donc du coup là c'est le premier film américain que je voyais tout simplement au pif. Écoutez, qu'est-ce que je pensais de ce premier film américain qui apparemment vient de Shudder, hein, si j'en crois le début, l'opening comme on dit, voilà l'ouverture. C'était pas fameux, voilà. Je l'ai rattrapé, mais bon c'était pas fameux effectivement. Comment dire? Bon, déjà, c'est un film qui, vraiment, je sais pas s'il y a une volonté première, hein, je sais pas si c'est une vraie volonté de citer beaucoup de choses. En tout cas, c'est un film qui emprunte énormément, en fait, même si on regarde l'évolution de son sous-genre horrifique. Premièrement, ça commence en slasher avec ses histoires de tueurs. Ensuite, ça part en home invasion. Et ensuite, ça part en film de possession, tout ça. Bref, il y a énormément de choses. Et moi, j'y ai vu beaucoup de références. Hein. J'ai vu. Des références à Suspiria hein, dans les éclairages, au Giallo, voilà. J'ai vu des références à l'Exorciste, hein, forcément. Je trouve que même le choix de l'actrice qui joue l'enfant, voilà, enfin une des deux enfants, je trouve que elle ressemble pas mal quand même à Linda Blair, je crois. C'est bien Linda Blair. Je me suis mis à avoir un doute, mais c'est bien Linda Blair, voilà. Et qui, oui, enfin, elle ressemble oui et non, hein, mais je trouve que dans la vibe, il y a quand même quelque chose. Le couteau utilisé, il y a une vraie vibe de Ghost. Face dans Scream, hein, clairement, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des plans quand même, voilà, Shining, hein, clairement, même l'aspect, bon, c'est quand même dans un orphelinat, école, tout ça, donc là, ça fait plus Suspiria, mais je trouve que, ouais, il y a des plans de manière de filmer les enfants, ou des fois, moi, ça m'a fait penser à Shining. Non, je trouve que, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de références dans ce film, conscientes ou pas, hein, mais en tout cas, je trouve qu'il y en a. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça vaut? Écoutez, c'est un film. Qui, contrairement à Property, se regarde. C'est-à-dire que, bon, Property aussi se regarde, il y a des bonnes qualités. Mais Property, c'est chiant. Property, je suis désolé, c'est vraiment pas très intéressant à regarder. Alors que The Sacrifice Game, on n'est pas sur un film excellent en termes de qualité intrinsèque, mais il est divertissant, il se laisse regarder, voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein. Et puis même au début, ça va, je trouve. Il y a une petite histoire, bon, ça se met en place et tout. Bon, on sent un peu que ça va pas voler haut, hein, mais voilà, mais on se dit si on peut avoir un film sympathique, bon, pourquoi pas. Et en fait, plus ça avance, plus c'est bête et plus ça fait de twists dans tous les sens, et voilà. Et juste, c'est le cas de beaucoup de films d'horreur en fait. C'est que plus ça avance, plus c'est débile parce que ils vont vous dire que oui, en fait, c'est ça notre histoire machin. Et en fait, il va y avoir un retournement de situation, mais sauf qu'il n'y a pas de retournement de situation, c'est ce qui était le cas depuis le début. Mais donc, en fait, souvent là où les films d'horreur se perdent, voilà, et surtout dans leur fin, et on en reparlera avec un autre film, voilà, de ça, c'est en voulant en fait expliquer ce qui s'est passé, voilà, et souvent les explications sont incroyablement flinguées. Et elles sont et tuent le film en fait. Hein, voilà, je pense que un des grands spécialistes de ça, c'est Shyamalan. Hein, si vous regardez Old, moi c'est un film que je trouve très sympathique, mais la fin flingue tellement le film, mais tellement le film. Et donc là, pareil, voilà, le film choisit de faire un twist et du coup, il faut se justifier, machin. Et oh là là, bref. Bon, voilà, je vais pas vous spoil, mais globalement, bon, c'est pas très très subtil. Voilà, et puis ce qui vient après, il est encore moins. Il y a une galerie de personnages, franchement, c'est fou, hein, parce qu'il y en a pour le coup, bah, ils sont très bien caractérisés, ils sont très drôles, hein, je pense à Jude. Voilà, j'ai des envies de blagues qui me viennent, mais je vais pas les faire. Je pense à Jude notamment, bon, bah, qui pète totalement un câble et qui est persuadé d'être un démon. Enfin bref, c'est assez gaulerie. Je pense à Doug. Doug, c'est vraiment le personnage qui m'a fait le plus rire. Voilà, je pense à Rose, l'institutrice, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et après, il y a les enfants. Alors, les enfants. Déjà, je me suis pas renseigné sur l'âge des actrices, mais c'est quand même quelque chose de fou. C'est-à-dire que les actrices, donc, il y en a une qui, donc, je n'ai pas son nom malheureusement, je vais rechercher ça, mais celle qui joue Samantha. Au début, on la voit faire un footing avant d'aller en classe. Donc voilà, quand elle a, c'est Madison Baines, voilà. Donc Madison Baines, si vous voulez, quand elle fait son footing dehors, on a l'impression qu'elle a 28 ans. Elle rentre dans l'école, elle va en cours, elle en a 14 à peu près. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup trop de moments où j'arrive pas à définir si les actrices sont vraiment enfants ou si c'est des adultes et c'est bizarre, genre, enfin c'est très perturbant sur le coup, je le dois avouer. Et oui, bah pour parler de son personnage, franchement il y a un moment où on a envie un peu de souffler parce que bon, genre elle est hyper réservée, hyper timide, hyper machin. Et il y a un moment où, sans trop spoil, bah, elle sort de cet orphelinat, elle passe devant une hache plantée dans un tronc d'arbre et on se dit, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire avec cette hache? Oh bah d'un coup, fuck it, j'y retourne et j'essaye de délivrer ma copine. Ouais, bah d'accord, bon. Voilà, bref, bon, il y a des retournements de situations comme ça, de personnalité. C'est pareil pour le personnage de Clara, hein, sans spoil. D'ailleurs, j'ai l'âge, hein, de Georgia Aken, donc l'actrice qui joue Clara. Elle est née en 2007, donc elle a à peu près 15-16 ans, voilà, donc ouais, elle a 16 ans, bon, c'est bien pour le coup, c'est pas vraiment des adultes, donc voilà, mais il y a vraiment des moments où elles font très adultes, je trouve, et c'est très 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 bizarre. Il y a des moments où il y a un peu un effet Isabelle Forman dans Esther 2, quoi. Voilà, bref, je ferme la parenthèse là-dessus parce que ça fait beaucoup trop de temps que j'en parle, mais donc oui, à part ça, bah écoutez, un film qui malheureusement, voilà, va pas vraiment au-delà de ces références, hein, qui proposent pas grand-chose de novateur, qui a des personnages qui vont de... Ah, j'ai pas parlé du personnage le plus mal écrit du film. Bref, ce qui est d'autant plus paradoxal que le film est réalisé par une femme. Voilà, bon, après, on en reparlera, c'est plus complexe que ce que je pitche là. Voilà, mais bref. Et en gros, oui, bon, bah, y a ces deux enfants-là, on sait pas trop où se passer. Et après, il y a le personnage de Maisie, je crois qu'elle s'appelle, voilà, qui littéralement est là, enfin en gros, si vous voulez, c'est un peu elle qui a monté toute cette expédition pour invoquer un démon, tout ça. Et en fait, littéralement, les autres membres de cette petite bande qui veut invoquer des démons ont rejoint la bande parce que ils sont trois, ce sont trois mecs et tous les trois veulent la pécho. Voilà. C'est vraiment le fil conducteur du film, c'est tout le monde veut pécho Maisie et genre qui va réussir à pécho Maisie. Alors il y en a un qui voilà, globalement, bon, on sent qu'ils sortent ensemble, hein, et les deux autres, ils puent le seum. Voilà, c'est vraiment la dynamique de ce quatuor, c'est Maisie qui lead le tout et tous les autres qui les ont rejoints parce que bah, ils veulent la pécho. Enfin, du coup, c'est en termes d'écriture, je trouve ça un petit peu désastreux, voilà, et en même temps, bon, ça permet, après je sais pas si c'est montré comme ça, en fait j'ai l'impression qu'il y a tellement pas de point de vue que bref je sais pas comment l'interpréter, mais ça peut aussi montrer un peu, ouais, bah, la petitesse des hommes, hein, entre guillemets, puis bon bref, voilà, mais ouais, c'est ce que je dis, il y a tellement pas de point de vue que je sais vraiment pas comment me positionner là-dessus. En tout cas factuellement, voilà, c'est ça, hein, factuellement, elle a son truc et les trois veulent la pécho. Bref, donc bon, c'est ouais, j'ai pas super kiffé, j'avoue, cette caractérisation de personnage. Surtout que bon, bah, ces caractérisations, c'est elle qui lit le truc pour invoquer le démon. Elle a déjà été élève dans ce pensionnat et voilà, elle veut se faire pécho par trois mecs. Donc bon, on souffle un peu. Donc voilà, hein, c'est un film qui, pour le coup, bah, offre rien vraiment de novateur, qui se laisse regarder, hein, voilà. Qui, par contre, bref, bon, va quand même. Comme genre principal, bah, film démoniaque, tout ça. J'aurais bien aimé que ça parte un peu plus dans le slasher, parce que je pense que c'est là que ça aurait été le plus intéressant. Et d'ailleurs, quand le film fait son twist, bon, on n'est pas du tout dans le slasher, hein, mais il aurait fallu que ce soit plus généreux, que ça pète plus, et qu'on en prenne plus plein la gueule, et le film le fait pas, donc au final, bon, C'est un film qui est raté, voilà, et je pense que je ne le retiendrai pas dans la compétition. Allez, on enchaîne tout de suite avec un deuxième film en compétition et on retourne en Europe, voilà, avec non pas un film français, mais un film hongrois, à savoir Halfway Home de Isti Madaras.
Nem olyan furcsa, mint ahogy hangzik, csak... Szóval... Szerelmes lettem egy halott.
Christian, jeune loser indolent, se dégote un boulot dans une morgue. Une tâche incongrue l'attend, aider les âmes en transit à régler leurs affaires sur Terre avant le grand départ. À peine le temps de s'y plier que sa quasi-petite amie Adji rejoint la cohorte des décédés. Bon, c'est pas un pitch, voilà, je le trouve pas incroyable. Bon, en gros, ce monsieur, quand il se rend à son travail, il percute quelqu'un en vélo, voilà, cette Adji, et pour le coup, il tombe amoureux d'elle, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit quasi-petite amie, parce que bon bah comme c'est indiqué dans le CM6, elle meurt, voilà, et bon bah c'est en fait en allant pas un date que Adji meurt, parce que bon elle est au date, hein, sauf que Christiane met énormément de temps à arriver, du coup elle s'en va et bref elle meurt dans un accident de bus, voilà. Petite remise en contexte qui est primordiale, je trouve, vu du synopsis un peu faible. Alors moi, ce qui me marque surtout dans ce synopsis, c'est l'absence du fantastique. Bon, le mec doit quand même aider les morts, donc voilà. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu la nuit à la morgue, hein. C'est-à-dire que vous voyez la nuit au musée, c'est pareil, mais avec des morts, globalement. Voilà, et donc oui, effectivement, ouais, y a un vrai aspect fantastique, parce que autant il y a juste cet aspect des morts, mais il y a aussi un vrai aspect folklorique, je trouve. C'est-à-dire que bon, au début, et c'est pour ça que je me suis dit, oh, ça va être bien, je sens qu'il va y avoir un petit truc, ça va développer des choses. Même pas, mais bref, je vais y revenir. Mais il y a une scène, tout début, scène d'intro dans un incendie, dans un hôpital, en plus, elle est très très bien mise en scène. Et donc, le Christian, en gros, les deux se rencontrent quand ils sont bébés, hein. C'est pas du spoil, c'est vraiment la première scène du film. Et Christian se fait recueillir par une sorcière, hein. On le voit, on le sent, enfin, elle a des pouvoirs, quoi. Et donc, ouais, cette sorcière, elle est quand même, c'est un sacré personnage, hein. C'est-à-dire qu'elle vit. Dans une tour immeuble, quoi, globalement, et elle vit avec notamment un corbeau et une chèvre chez elle, voilà, bref, donc il y a quand même tout un folklore, hein. Puis il y a ce personnage du croque-mort, hein, qui est clairement un démon, et voilà, un personnage un peu mythologique, un peu particulier. Je trouve le synopsis assez faible, hein, voilà, pour un film qui est quand même pas mal dense, donc c'est pour ça que je me permets de revenir dessus, voilà, il y a tout cet aspect là et en fait, nous on nous a présenté un peu le film comme, ça va être une rom-com, ce que le film est, hein, y a pas de souci, je vais pas me plaindre de ça, le film est une rom-com, et en soi moi c'est un genre qui me plaît plutôt bien, hein, pour le coup, voilà, donc j'étais curieux, hein, tout simplement de voir ce que ça allait donner. C'était pas exceptionnel, hein, voilà, non plus, c'était un film très moyen, et en fait c'est assez paradoxal parce que c'est un film qui développe énormément de choses, enfin je viens de vous le pitcher quand même, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, un film qui va développer cet aspect, cet univers un peu fantastique, tout cet univers, voilà, pour au final pas en faire grand chose, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que dans l'histoire, voilà, je trouve que les personnages, même notre chère Christiane avec sa coupe de cheveux un petit peu particulière, même Christiane, je trouve quand même assez sympathique comme personnage, surtout le personnage d'Adji aussi qui est super. Et en vrai, l'aspect un peu touchant, rom-com et tout, marche pas mal, hein, pour le coup. C'est un film qui, malgré tout ce qu'il développe, et je n'explique pas ce paradoxe, c'est un film qui, malgré tout ce qu'il développe, est fondamentalement déjà très très lissé au possible, j'ai envie de dire, et surtout un peu plat, en fait, hein. Voilà, c'est le constat qui en ressort, malheureusement. C'est un film qui est plat. Et je comprends pas comment on peut développer autant de choses, autant de folklore, de récits, parce qu'il y a du fantastique, il y a des fois des scènes un petit peu horrifiques, il y a de la comédie, il y a de la romance, etc. Et il y a tout un ensemble pour qu'au final, ce soit plat et il n'y a rien vraiment qui ressorte. Et ouais, je trouve ça assez fou quand même, hein, à quel point Bon, à quel point, voilà, ça peut. Je sais pas. Bref, c'est un paradoxe, ce film. Franchement, il y a des scènes qui sont très, 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 très belles dans la romance, je trouve. Au-delà de toutes les scènes un peu cucu, genre, ouais, bon, bah, notamment, voilà, le fameux pierre-feuille-ciseaux qui revient tout le temps. Qui, bon, au bout d'un moment, ça va, on a compris, surtout que, pardon, hein, je vais passer mon coup de gueule, mais au bout d'un moment, s'il réfléchissait 2 secondes, voilà, il y a vraiment cette scène où il fait, ouais, bref, il y a personne qui gagne quand on joue au pierre-feuille-ciseau. Ouais, enfin, frérot, si tu réfléchissais 2 secondes, tu la battrais, vraiment, parce que vous avez une logique, elle est, enfin, bref, elle est hyper facilement contournable. Et du coup, c'est un petit peu, bon, voilà, un peu décevant, on va dire. Enfin, pas décevant, mais c'est frustrant de regarder ça, parce que c'est censé participer à l'aspect mignon, sauf qu'au bout d'un moment, c'est gavant, quoi, bref. Tout ça pour un pierre-feuille-ciseau. Mais donc oui, au-delà de ça, il y a quand même des scènes qui bah ouais fonctionnent très bien et des scènes de romance qui sont très très bien écrites et qui sont vraiment belles. Et on peut passer de ça à une scène où en termes niveau absurdité et niveau pas forcément absurdité non plus, mais bref je voilà niveau bah ouais mise en scène et personnage où on peut passer à une scène qui pourrait sortir de Power Rangers, quoi, globalement, hein, voilà. Donc bon, vous le voyez, j'ai énormément de mal à parler de ce film, mais parce que c'est comme je l'ai dit, c'est un paradoxe. Ce film est un paradoxe. Donc effectivement, oui, j'ai énormément de mal à en parler. Voilà, et je pense que je pourrais pas en dire plus. Voilà, juste que, bon, bah, c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que il a tellement de choses à offrir dans son scénario, il a tellement d'idées et tellement de, enfin voilà, tellement d'éléments différents, mais dans les faits, bah, c'est un film qui reste quand même un peu plat et c'est vraiment con, voilà, tout simplement. Donc ouais, un film très mid alors qu'il aurait pu être très bien. Alors, on va quitter la compétition l'espace d'un instant hein, pour partir dans la catégorie des séances cultes et donc on va parler de L'Enfer des armes de Tsui-Hark. Trois étudiants renversent un passant en voiture, ils s'enfuient paniqués. Wan Chu assiste à la scène et les fait chanter. La jeune fille, portée par un nihilisme radical, les embrigade dans des actions de plus en plus dangereuses. Leur route croise celle de trafiquants d'armes. Alors, c'est un film qu'il faut remettre dans son contexte. Pour vous expliquer, c'est un film donc hongkongais. Voilà, il faut savoir que, bon, il parle beaucoup du Hong Kong des années 70. Il y avait encore c'était encore colonisé par la Grande-Bretagne, tout simplement. Il y avait tout cette violence, ce climat, voilà, qui commençait à monter. Voilà, notamment de la part de l'extrême gauche, hein, qui commençait à bah, avoir des actions de plus en plus radicales, justement, un peu contre tout ça. Et à côté, donc, on a Tsui-Hark. Qui en fait lui fait deux films, ses deux premiers films qui bon bah marchent pas très 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 bien et donc il y a celui-là où bah ça peut potentiellement être son dernier film et donc il s'est dit je vais mettre mon âme dedans et en particulier bah, tous les sentiments un petit peu négatifs qu'il avait voilà et pour le coup bah c'est ce qu'il a fait et en fait il a tellement mis de sentiments un peu négatifs et il a tellement voulu parler de ce mouvement voilà de ces attentats qu'il y avait à Hong Kong, notamment les attentats à la bombe, que en fait, à Hong Kong, on a censuré son film. Voilà, donc pour le coup, il y a une version non censurée qui existe, hein, mais qui existe apparemment pas très très bonne qualité, qui existe bah, genre sur une base de VHS. Hein, je crois que la pellicule a été détruite. Voilà, mais donc du coup, nous, ce qu'on a vu au pif, c'est la version censurée. Voilà, parce que bon, en fait, il y avait globalement des images d'étudiants qui fabriquaient une bombe et tout. Donc bon, le gouvernement a pas trop laissé ça, ils ont pas trop kiffé. Voilà, donc effectivement, c'est voilà. Et donc du coup, bon, on se retrouve avec, bon bah apparemment, hein, j'ai pas vu la director's cut, mais on m'a raconté, on se retrouve avec, dans une director's cut, bah, des étudiants qui donc sont à l'origine un peu de ces actions dangereuses, voilà, et sont coupables, notamment à un moment où on voit un attentat dans un cinéma, il y a trois plans de ce truc-là, bah, en fait, c'est les jeunes, apparemment, hein, dans la version Director's Cut. Et d'ailleurs, c'est pas en renversant quelqu'un qui se font prendre, c'est bah, quand ils font l'attentat au cinéma. Voilà, donc beaucoup de changements. Et en fait, oui, bon, voilà, il y a cette chose-là qui, bon, on peut comprendre vu la tournure un peu qu'avait Hong Kong, que ça a été censuré. Mais du coup, Sawyer qui a dû faire des reshoots, enlever des scènes, faire beaucoup de montage, tout ça. Et donc, ça fait que c'est un film qui est franchement bordélique et qui est limite incompréhensible. Et je sais pas si je garde le mot limite, qui est peut-être même incompréhensible. Parce que du coup, il y a énormément de choses où en fait, bah, on va pas du tout expliquer ce qui se passe, on va pas du tout expliquer pourquoi ça se passe, voilà, mais c'est là, voilà, il faut pas chercher à comprendre. Genre, il renverse un mec, j'ai totalement oublié, mais enfin, je sais même plus qui c'est censé être dans l'histoire. Il le renverse parce qu'il y a une moto qui leur passe devant, la moto sort de on ne sait où, enfin, c'est lunaire, il y a vraiment tellement de trucs qui servent à rien. Et en soi, je sais même pas si la fille les voit vraiment, voilà, hein, je sais même pas si elle est vraiment là. Je crois que c'est en essayant de partir qui tombe sur son chemin. Donc non, enfin c'est bref, il y a énormément de choses un peu bordéliques. Et voilà quoi, c'est c'est un peu déroutant. Vraiment, il y a des moments où mon cerveau est parti, mon cerveau s'est envolé du Max Linder et est parti, je sais pas où. Mais il était plus concentré sur le film parce que c'est bordélique au possible. Et donc en fait, bah là l'aspect un peu, c'est pour ça aussi je trouve que bah il y a un truc bizarre, c'est que dans la Director's Cut, c'est quand même des gens qui sont coupables, hein, enfin coupables entre guillemets, les étudiants, c'est pas des petites victimes, hein, ils sont quand même maîtres de leurs actions, c'est eux qui en sont à l'origine. Là, c'est vraiment, ils se font globalement victimiser par cette fille qui les fait chanter, hein, clairement. Mais du coup, ça fait que bon, bah, il y a quand même des scènes qui sont restées, je pense, hein, voilà, même si on m'a répété que c'était pas le même film, hein, clairement, mais il y a quand même des scènes qui sont restées, et donc ça fait que ouais, on est extrêmement perdu. Alors après, ça m'a pas empêché d'aimer le film, voilà, parce que il y a quand même. Il y a quand même autre chose que le scénario. Il y a ce qu'on appelle par exemple la mise en scène. Voilà, pour le coup, la mise en scène est assez excellente. Et je trouve que dans tout ce qui est déchaînement de violence, c'est un film qui est très 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 bon. C'est un film qui, bah, du coup, j'y étais pas, mais je pense qu'on comprend pas mal son temps, clairement, qui s'inscrit pas mal dans le contexte politique, et qui le fait bien. Voilà, ça fonctionne assez bien. Et voilà, je vais pas dire que c'est rafraîchissant à voir, mais en tout cas, il y a vraiment des envolées absolument absolument superbes dans ce film, voilà. Et je pense notamment à la séquence finale, hein, dans le cimetière, qui est absolument absolument géniale. Celle-là, je crois qu'on m'a dit qu'elle était aussi dans la Director's Cut, ce qui m'étonnerait pas, hein, parce que c'est un dénouement plutôt classique, voilà, enfin plutôt logique, pardon. Mais en tout cas, ouais, il y a un vrai truc, je trouve, dans ces scènes de violence, je trouve que la violence est très très bien filmée, qu'elle est jamais injustifiée, et que du coup ça participe vraiment à tout ce qui est contexte de l'époque. Pour le coup, c'est quelque chose que pour ma part j'ai énormément apprécié, et en fait c'est vraiment ce que j'ai retenu, hein, c'est-à-dire que l'aspect trop bordélique du film, moi, m'a empêché de vraiment rentrer dedans. Ça fait que je suis resté un petit peu hermétique, mais en fait ça fait partie des films où globalement, en restant hermétique, j'arrive quand même d'un point de vue extérieur à voir les qualités du film, et c'est pour ça que j'arrive quand même, mine de rien, à l'apprécier, peut-être pas autant que si jamais le film était bien d'un point de vue scénaristique, mais j'ai quand même réussi à l'apprécier. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est pas mal. Après, qu'est-ce que j'en aurais à dire concrètement, hein, voilà, à part justement que ça traduit pas mal le contexte de l'époque, comme je vous l'ai dit, hein, que bon, que ça parle en partie d'attentat à la bombe, tout ça, c'est vrai que, enfin voilà, bon, bref, à part tout ce que je vous ai dit, ça m'a, comme je vous dis, le film m'a tellement laissé perplexe, un peu comme l'autre, hein, ça m'a tellement laissé perplexe que, fondamentalement, à part vous dire que, le scénario est un peu bizarre parce que du coup, il s'est fait censurer, mais que, il y a des très bonnes scènes, qui utilisent bien la violence et tout, mis à part ça, en fait, fondamentalement, je n'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire parce que. Le film est ce qu'il est, hein, tout simplement. Et voilà, c'est deux films que j'ai enchaînés qui m'ont laissé perplexe voilà, dans ce festival. Mais bon, voilà, je pense que je serais curieux de voir la Director's Cut qui doit être tout un autre film, hein, vraiment. Voilà, donc que peut-être que j'aurai un discours très différent après la Director's Cut. Toujours est-il que là, voilà, c'est un film plutôt sympathique, qui a ses vraies qualités de mise en scène voilà, et de propos politiques. Mais pour le coup, ouais, j'avoue que bah, il m'a laissé aussi un peu perplexe et je suis resté très hermétique. Voilà, mon grand désarroi. Allez, on va passer donc au dernier film de cet épisode. On va revenir à la compétition et cette fois, on quitte l'Asie, on revient en Europe et on part du côté de nos amis les Anglais, puisqu'on va parler de Stop Motion de Robert Morgan. Ella travaille dans le domaine exigeant de l'animation image par image. Elle officie dans l'ombre envahissante de sa mère, star de la discipline désormais incapable de mener un projet à son terme. Un événement funeste va pousser Ella vers une autre forme de création. Alors, c'est mon film préféré de la compétition. Voilà, c'est dit. C'est le quatrième que j'ai vu et c'est mon préféré. Parce que je trouve que c'est de loin le film qui va développer les choses les plus intéressantes. Et ça, en tout point, hein, clairement. Voilà, c'est un film qui... je vous ai dit qu'on... On va le faire maintenant. Hein, je vous ai dit qu'on reparlerait de ces films qui gâchent totalement bah, le propos et l'intrigue avant en voulant expliquer bah, tout voilà, à la fin. C'est un film qui, pour le coup, ne le fait pas. Et du coup, c'est un film qui bah, va se tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est toujours très, 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 très agréable. Parce qu'effectivement, on termine le film en se disant, mais what ? Enfin, vraiment, et bref, on a envie d'avoir des réponses, etc. Personne n'a demandé sur la fin, bah, parce que le réalisateur était là, personne ne lui a parlé de sa fin. Je pense que ça aurait pu mériter et tout, mais bref. Donc, effectivement, non, personne ne lui a parlé de sa fin. Mais même si elle laisse perplexe, eh ben, c'est toujours mieux que voilà, d'expliquer, parce que franchement, il y avait vraiment matière. Hein. Il y avait vraiment moyen de faire des trucs et d'aller expliquer bon, bah, les origines, notamment, et enfin, qu'est-ce que représente un des personnages. Enfin, bref. Il y avait voilà, des explications débiles, il y avait vraiment un boulevard pour en faire. Mais le film ne tombe pas dans ce piège, et c'est très, 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 très agréable. Donc, bah, un des trucs les plus intéressants de ce film, hein, ça reste son double aspect prise de vue réelle stop motion, hein, clairement. Voilà, puisque donc on a un film, et en plus ça crée une mise en abîme, hein, puisque bon, on a un film sur bah, une réalisatrice, du coup, de films en stop motion, voilà, et qui donc, du coup, bah, va se mettre à créer du stop motion, et ce stop motion est intégré au film. Donc on a une, voilà, parfois des plans où il y a un mix littéralement entre les prises de vue réelles et stop motion, et c'est super bien fait. Là où effectivement il y a des fois où c'est juste des plans bah, de stop motion, hein, pour le coup, où il y a des plans voilà, où c'est juste de la prise de vue réelle, hein. Bref, vous avez compris, ça varie entre tous ces éléments. Donc c'est une mise en abîme qui marche assez bien, d'autant plus que en fait bah, assez logiquement le réalisateur est aussi animateur stop motion, hein, voilà, c'est plutôt logique. En fait c'est tout bête, mais toutes les innovations et tous les trucs un petit peu originaux, que va apporter bah, le personnage dans le film, en fait c'est mine de rien, c'est comme si c'était apporté par Robert Morgan, le réalisateur, et que du coup les trucs originaux ils se trouvaient dans le film, pas que le film, que le personnage, d'ailleurs j'ai oublié son nom, bref, mais le personnage est en train de faire, mais le film plutôt que bah, le réalisateur est en train de faire et que nous on est en train de voir. Donc en fait, toutes les bonnes idées utilisées par son personnage, bah, pour le coup, on peut les mettre à son crédit, et c'est ça qui est très très fort aussi dans ce film et dans la mise en abîme. Et donc voilà, on a autant ces scènes-là en stop motion et qui sont absolument, absolument superbes, hein, comme je vous ai dit, mais on a également des scènes, bah, c'est la plupart des scènes, hein, les prises de vue réelles, des prises de vue réelles qui sont super, je trouve, tant dans les décors que dans les éclairages, hein. Je me faisais la remarque notamment sur certains des derniers plans, mais on a vraiment une image qui est vraiment soignée, je trouve, dans la composition, du cadre, voilà, dans tout ce qui est arrière-plan, premier plan, et aussi bah, tout ce qui justement va toucher à ça au niveau de la lumière. Voilà, je trouve que la lumière est très 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 bien réfléchie, pas réfléchie dans le sens voilà, bref, vous m'avez compris, elle est très très bien pensée, voilà, tout comme la composition des plans, et on a une esthétique qui est vraiment nickel. Il y a une scène notamment, je trouve, qui bon bah va un peu plus s'aventurer, va un peu plus tenter des choses. C'est la scène scène du trip entre guillemets, voilà, et qui pour le coup je trouve est vraiment 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 pas mal, voilà, avec tous ces éclairages un peu LED, hein. Moi c'est des choses qui me plaisent pas mal en général, mais il faut bien les utiliser, hein. Dans The Sacrificium il y en avait, et pour autant la photo m'a pas spécialement marqué, mais là il y a une photo qui est assez excellente, hein, voilà, et qui donc je trouve fait partie de ce très bon ensemble du film. On a en plus de ça la formidable donc Aisling, ou Aisling, je sais pas comment on dit, Franciosi, donc qui avait, voilà, si vous avez pu la voir dans notamment le très sympathique The Nightingale de Jennifer Kent, bon très sympathique pas dans les événements du film, hein, mais en termes de qualité il était vraiment, vraiment pas mal, voilà, donc ça fait vraiment plaisir, et donc c'est vrai que c'est une très bonne actrice, donc elle arrive quand même à porter le film un minimum, voilà, et surtout c'est un film qui va développer des choses je trouve absolument passionnantes sur le travail déjà de réalisateur, hein, parce que bon voilà, c'est de réalisateur, de créateur en général je trouve, voilà, d'artiste même si on veut, hein, parce que tous les artistes créent des choses, donc effectivement ouais, ça porte des questionnements assez intéressants sur le travail d'artiste, et surtout sur le travail d'artiste créateur stop motion, hein, parce que bon c'était le cas du réalisateur, etc. C'est le cas du personnage, et il y a des choses on se dit putain, ça a l'air de faire quand même vachement peur d'être réalisateur en stop motion. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Je ne sais pas. Voilà, mais il y a vraiment des trucs. On se dit que le mec potentiellement pète un câble en faisant ses films, hein, parce que il a dit qu'il y avait une part quand même autobiographique dans le film, hein, puisque lui-même était donc animateur stop motion. Et vu ce qui se passe dans le film, franchement j'avoue que j'ai pas forcément envie d'être animateur stop motion, très clairement, parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs un peu terrifiants, ouais, clairement, qui se passent dans sa tête, clairement ça parle, déjà je pense que toute personne qui crée, tout artiste peut vraiment devenir fou par rapport à son travail, etc., mais là en fait encore plus, parce que il crée des marionnettes, il crée des littéralement des marionnettes, donc il y a un côté un peu flippant, hein, voilà, il anime des marionnettes avec de la vidéo, donc on peut avoir l'impression que ces créatures, les créatures qu'on crée vont prendre vie et nous nuire, enfin bref, il y a tout un vraiment un truc développé vraiment sur ça dans le film, sur effectivement à quel point ça peut faire peur aussi, hein, voilà, de créer des choses. D'ailleurs petite dédicace à la personne qui a posé la question la plus lunaire que j'ai entendu un Q&A, du coup par rapport à cet aspect un peu création, le mec lui a demandé au réalisateur, vous prenez-vous pour Dieu, et est-ce que vous avez peur que vos créatures se retournent contre vous? Voilà, donc vous prenez-vous pour Dieu, c'est la question la plus lunaire que j'ai entendue dans un Q&A, clairement, et pourtant j'en ai entendu des pas mal, mais celle-là elle était particulièrement exceptionnelle. Mais donc voilà, on a tout ce propos sur le créationnisme, etc., et on a aussi quelque chose je trouve assez intéressant, je connais pas du tout l'histoire du réalisateur, mais il y a vraiment cet aspect de crainte déjà de pas être à la hauteur et de pas réussir à créer, je trouve, parce qu'on vous l'a dit, elle est vraiment, le personnage de Ella est dans l'ombre de sa mère, et pour le coup c'est un personnage qui a quand même du mal à créer entre guillemets seul. Alors là pour le coup il y a une enfant qui l'aide. On ne sait pas vraiment si elle est réelle ou pas, mais au bout d'un moment, c'est l'enfant qui la dirige, quoi. Et en fait, elle quitte la direction de quelqu'un pour entrer sous la direction de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, on voit qu'elle a limite une incapacité à créer. Et donc ça, il y a un propos là-dessus, clairement aussi, hein, et un propos aussi, je vois, pour tous les gens qui ont un fort héritage, je trouve, dans l'art, voilà. À mon sens, ça parle aussi de ça, hein, voilà, les gens qui ont un fort héritage dans l'art et qui n'arrivent pas à se détacher. Il y a quelqu'un qui va lui dire j'ai vu les films de ta mère et tout machin, c'est trop bien, genre, enfin c'est ça devait être un truc de ouf de grandir dans cet environnement là alors qu'en vrai la mère est extrêmement froide, certes elle a fait des bons films, mais apparemment on les voit pas dans le film, mais bref, certes elle a fait des bons films, mais on voit qu'elle est extrêmement froide, et franchement ça donne pas trop envie de la côtoyer, hein, voilà, mais donc ouais, je trouve ce truc là, hein, ce propos sur notamment les fameux fils de et filles d'eux, qui vont peut-être du mal à s'émanciper de l'image que les gens de leur famille ont laissé dans le milieu de l'art, cette incapacité à créer seul, parce que on veut se montrer à la hauteur de ses ancêtres, j'ai envie de dire, mais non, de ses proches, de ses parents, parents dans le sens reliés, pas parents dans le sens papa maman, il y a tout un truc je trouve pas mal en termes de propos, il y a une très 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 belle réalisation, une très très belle photo, une très belle interprétation. Donc en fait, que demander plus? Que demander plus? C'est tout simplement le meilleur film qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant au pif. Et il fait plaisir, et il fait extrêmement plaisir. Et pour le coup, voilà, je sais pas si jamais il va sortir, il a pas de distributeur encore en France. Mais si jamais il sort, bah, je vous le recommande vraiment très fortement parce que c'est un excellent film. Voilà, et pour le coup, ça a été une très très bonne surprise. Et voilà, une réussite de A à Z. Et il a parfaitement clôturé cette journée. C'est aussi pour ça que je me suis permis de pas aller voir le dernier parce que je me suis dit là on finit quand même sur le deuxième meilleur film que j'ai vu au festival après Godzilla, donc pour le coup voilà, on peut tranquillement s'en aller. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Demain normalement je fais bien 5 films, je vais essayer de pas me défiler cette fois, défiler entre guillemets. On commencera tout de suite, il y a du lourd en plus demain en théorie, on commencera tout de suite par En boucle, voilà, qui est un des films que j'attends le plus de la compétition. Ensuite il y aura la séance culte à l'intérieur, j'ai très 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 aussi, j'ai jamais vu le film. Ensuite il y aura Light Night with the Devil, bon c'est américain mais je sais pas, j'ai foi en ce film, je pense que ça va être pas mal. Il y a le Wake Up qui a l'air sympa aussi en hors compétition, et après il y a la séance interdite donc à 23h45. Le Run and Kill, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais bon bah voilà, ça risque d'être rigolo. Donc voilà, il y a tous ces films que je vous ai cités. C'est vrai que bon bah je vous avais dit dans l'épisode 0 que ma plus grosse attente de cette journée c'était En boucle. Finalement, je sais plus parce qu'il y a quand même un line-up qui est assez attirant, donc on verra bien, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ouais, j'ai très 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 hâte de la journée de demain. Pour moi, c'est la journée la plus prometteuse, hein. C'est la journée où on a le plus de chances de voir de très bons films et d'enchaîner les bons films. Donc je place quand même pas mal d'attentes et j'espère que ça ne me décevra pas. Et donc, si vous voulez avoir la réponse, il va falloir écouter voilà, tout simplement l'épisode demain. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu et donc je vous dis à demain pour un nouveau débrief.